d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 4 décembre 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. L'UEMOA débloque 50 milliards de francs CFA pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays confrontés au terrorisme. Emmanuel Macron invite les présidents du G5 Sahel pour qu'ils clarifient leurs demandes sur la présence militaire française dans la région. Donald Trump a annulé sa conférence de presse à l'issue du sommet du 70e anniversaire de l'OTAN près de Londres. Et le Congrès américain débute le débat juridique sur la procédure visant la mise en accusation du président Trump. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Le président français Emmanuel Macron a invité à Pau, en France, le 16 décembre, les présidents des pays du G5 Sahel. Paris veut qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France pour sa présence militaire antiterroriste au Sahel. Éric Manirakiza.
Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français au Sahel alors que l'ambiguïté perdure à l'égard des mouvements anti-français, a averti le président Macron à l'issue du sommet de l'OTAN. Paris estime que ses leaders africains doivent l'affirmer politiquement dans leur pays devant leur opinion publique.
Nous devons, à très court terme, reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel. D'abord et avant tout, avec les 5 États africains membres du G5 Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Leurs réponses sont aujourd'hui une condition nécessaire à notre maintien.
La France n'est pas là avec des visées néocoloniales, impérialistes ou avec des finalités économiques. On est là pour la sécurité collective de la région et la nôtre, a plaidé le président Macron. Il a aussi expliqué vouloir organiser une présence plus forte et plus structurée de la France au Sahel par une nouvelle coalition autour de Paris en lien avec ses partenaires européens et africains.
En sommet extraordinaire à Dakar, les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont décidé de décaisser 100 millions de dollars au profit des trois membres de la ligne de front du G5 Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, afin de renforcer la lutte antiterroriste. C'est Dina Abagay à Dakar.
La conférence des chefs d'État de l'UEMOA a décidé d'une contribution immédiate de 100 millions de dollars, soit près de 60 milliards de francs CFA, pour participer de façon urgente au financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace communautaire. Cette somme est destinée aux trois membres de l'Union présents dans la ligne de front du G5 Sahel. Le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema, affirme que cette contribution s'inscrit dans l'engagement de l'Union de participer à hauteur de 500 millions de dollars au plan de la CEDEAO dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans l'espace régional sur la période 2020-2024. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a aussi exprimé sa grande préoccupation concernant la recrudescence des attaques terroristes au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Abdallah Bourema a par ailleurs indiqué que les chefs d'État de l'UEMOA ont adopté un acte additionnel instaurant un fonds de sécurité. 6 des 8 chefs d'État des pays de l'UEMOA ont pris part à la session extraordinaire. Il s'agit des présidents du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, du Niger, Mohamedou Issoufou, de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, du Togo, Faure Gnassingbé, du Bénin, Patrice Talon et du Sénégal, Macky Sall. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Un tribunal sénégalais a condamné à 2 ans de prison avec sursis le maître d'une école coranique où les élèves fugueurs étaient enchaînés. Le procureur avait requis 2 ans de prison, dont 2 mois ferme. La police avait bloqué les accès au tribunal de Louga. Récemment, les sympathisants de Sékou Naguère avaient saccagé le tribunal pour qu'il soit relâché avec ses co-prévenus, 4 parents et le forgeron qui a fabriqué les chaînes. La police togolaise a arrêté 18 personnes soupçonnées d'avoir participé le 23 novembre à des agressions contre des gendarmes à Lomé et à Sokodé, blessant 5 d'entre eux, dont un qui a depuis succombé à ses blessures. Elles appartiennent à un mouvement dénommé Tigre Révolution, créé il y a environ 1 an par un Togolais résident en Belgique, a déclaré le directeur de la police. Des militants des droits de l'homme ont dénoncé la décision de la Tanzanie d'empêcher les particuliers et les ONG de porter directement plainte contre le gouvernement devant la Cour africaine des droits de l'homme. Récemment, le gouvernement s'est retiré d'un protocole autorisant ces plaintes, soulignant qu'il avait été mis en œuvre contrairement aux réserves émises par la Tanzanie. Le président ougandais Yoweri Museveni a mené ce mercredi à Kampala une marche rassemblant des milliers de fonctionnaires, policiers et partisans du pouvoir pour dénoncer la corruption. La capitale ougandaise a été placée sous haute surveillance, des soldats encadrant de près les dignitaires qui défilaient, dont les présidents du Parlement et de la Cour suprême. Cette marche a suscité de nombreuses moqueries et critiques, rappelant que plusieurs scandales de corruption ont marqué la présidence Museveni.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants de l'OTAN ont dressé le bilan de 70 années d'existence de l'Alliance et identifié les nouveaux défis dans une déclaration commune à la fin du sommet de l'Organisation transatlantique à Londres. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
D'après la déclaration commune, l'OTAN reste le fondement de la défense collective et le forum essentiel pour les consultations et la prise de décision en matière de sécurité entre alliés. Jens Stoltenberg, chef de l'OTAN.
Tous les dirigeants ont été très clairs. Nous sommes tous ensemble pour un et un pour tous. Notre engagement à l'article 5, la clause de défense collective de notre alliance, reste consolidée.
L'Alliance estime que les actions de la Russie constituent une menace pour la sécurité de ses membres. Toutefois, elle dit être ouverte au dialogue avec le Kremlin. Les alliés ont reconnu les opportunités et les défis posés par la Chine. Washington exhorte l'Europe à exclure Huawei du développement des réseaux 5G, craignant que ses équipements soient utilisés par Pékin pour espionner. Les alliés ont réitéré leur engagement à consacrer 2% de leur PIB aux dépenses militaires d'ici 2024. Ils s'engagent aussi à poursuivre leurs efforts contre le terrorisme.
L'émissaire américain pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, actuellement à Kaboul, va retourner au Qatar pour reprendre les discussions avec les talibans interrompues en septembre par Donald Trump, a annoncé le département d'État. À Doha, l'ambassadeur Khalilzad va discuter des étapes pouvant mener à des négociations inter-afghanes et à une résolution pacifique de la guerre, selon un communiqué qui ne précise pas la date de cette rencontre. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit demander ce soir à Lisbonne au secrétaire d'État américain Mike Pompeo d'accroître la pression sur le pouvoir vacillant à Téhéran dans un contexte de manifestation au Moyen-Orient. Les deux hommes doivent, dans la capitale portugaise, se rencontrer après des changements express de planning. Monsieur Pompeo, attendu au Maroc demain, a modifié son programme pour rencontrer Monsieur Netanyahou, qui a dit se rendre en Europe principalement pour le rencontrer. L'enquête parlementaire des démocrates en vue de la mise en accusation du président Donald Trump est entrée dans une nouvelle étape. La commission du renseignement de la Chambre des représentants a remis son rapport à la commission judiciaire qui a commencé aujourd'hui des auditions publiques. Idriss Fall nous en dit plus.
Jerry Nadler, président de la commission judiciaire, a déclaré, je cite, « En demandant à Kiev d'enquêter sur Joe Biden, son potentiel rival, Donald Trump a directement et explicitement invité une ingérence étrangère dans nos élections. Il était prêt à mettre en péril notre sécurité et ses fonctions pour son bénéfice personnel et politique », a-t-il ajouté. Cette procédure est une imposture, a répondu le républicain Doug Collins, numéro 2 de cette commission, reprenant une ancienne déclaration de Jerry Nadler pendant la procédure contre Bill Clinton. Il a réitéré que ce coup d'État partisan sera marqué d'infamie dans l'histoire de la nation. Pour sa part, le président Trump a qualifié de blague le rapport d'enquête qui contient, selon les démocrates, des preuves accablantes de sa conduite inappropriée. « C'est une très mauvaise chose pour notre pays, c'est une blague », a fustigé M. Trump lors d'une rencontre avec le Premier ministre italien en marge du sommet de l'OTAN à Watford, près de Londres.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, l'actualité économique en Afrique, présentée par Nani Talani.
Le Mali prévoit de dépenser plus de 13 milliards de francs CFA pour le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale en 2020. Ce projet, soutenu par la Banque mondiale, accorde une priorité aux infrastructures de transport routier. Il permettra l'aménagement de 400 km de pistes rurales, dont 200 km dans la région de Sikasso et 200 km dans le Koulikoro. Les fonds permettront aussi de construire 3 ponts dans les villages de Djungula, Fanyena et Ntchobougou. Ils serviront également à former et sensibiliser les chauffeurs et conducteurs routiers, ainsi qu'à sécuriser les routes. L'Union européenne veut donner environ 21,6 milliards de francs CFA au Togo d'ici 2020 pour lui permettre de mettre en œuvre des réformes en matière de gestion des finances publiques, de la décentralisation, de l'amélioration du climat des affaires et du système national de statistiques. Les fonds permettront aussi au pays de promouvoir une croissance socio-économique inclusive et stable. Pour terminer, l'institution panafricaine Africa Finance Corporation investit 50 millions de dollars dans la société d'Anakali qui s'active sur le projet de potasse érythréen Kolouli. Ces fonds permettront à faciliter le démarrage des activités de développement du projet Kolouli afin qu'il entre en production d'ici 2022. Kolouli renferme 1,1 milliard de tonnes de réserves de potasse. Le projet représentera environ 50%, soit 537 millions de dollars des exportations totales de l'Érythrée en 2030 et 3% du PIB d'ici 2021.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La short list révélée par le joueur africain de l'année.
Oui, de 30, il ne sont plus que 10 joueurs en lice pour le prix de joueur africain de l'année. On y retrouve les favoris Sadio Mané et Riyad Mahrez, Ismaël Benasset, meilleur joueur de la CAN 2019 avec le Nigérien Odion Ighalo, le Camerounais André Onana ou encore le Sénégalais Kalidou Koulibaly, le Marocain Hakim Ziyech, l'Égyptien Mohamed Salah, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et l'Algérien Youssef Belaïli sont aussi sur cette shortlist. Chez les dames, entre autres prétendantes, les Camerounaises Njoya Adjarantout et Gabrielle Ongéné, la Nigériane Aziza Oshoala, la tenante du titre sud-africaine Tembin Gatlana et la Malawite Tabitha Shawinga. Les lauréats seront désignés le 7 janvier prochain au Caire, en Égypte.
Le Zamalek change d'entraîneur.
Oui, le club Kairot a décidé de se séparer de son entraîneur Mitjo Seravjovic pour résultats insuffisants. Il était sur la sellette depuis la défaite en ouverture de la Ligue des champions de la CAF contre le tout-puissant Mazembe. Mitjo, à la tête du club depuis juillet dernier, s'en va après 12 matchs dont 7 victoires. Pour le remplacer, le Zamalek a coché le nom de Patrice Carteron. Le technicien français est sans contrat depuis son départ du Raja Athletic Club de Casablanca. Il connaît bien l'Égypte pour y avoir déjà entraîné le Wadi Degla et surtout Al Ahly.
Le PSG a signé un partenariat touristique avec le Rwanda.
Oui, le Paris Saint-Germain a officialisé un partenariat de 3 ans avec le Rwanda, un contrat dont le montant n'a pas été précisé et qui engage le club à promouvoir le tourisme dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le double champion de France est le second club à s'engager dans la campagne Visite Rwanda. Après Arsenal qui a signé un tel partenariat en mai 2018, ce partenariat prévoit que des joueurs du PSG se rendent au Rwanda. En relatant leur visite sur les réseaux sociaux, ils porteront la marque Visite Rwanda au dos de leur tenue d'entraînement et d'avant-match. Le slogan sera aussi visible sur la manche des maillots de l'équipe féminine.
Et la Ligue des champions féminines a adopté la phase de poule.
Ça se fera à partir de l'édition 2021-2022 sous la forme d'une phase de poule qualificative pour les quarts. Le comité exécutif de l'UEFA a validé le principe d'une phase de groupe à 16 avec 4 poules de 4 équipes s'affrontant en match aller-retour. Un système similaire à celui pratiqué chez les messieurs, lancé en 2001 sous le nom de Coupe féminine de l'UEFA. La Ligue des champions dames présente pour l'heure un format avec un tour préliminaire sous forme de poule, puis un tableau principal débutant à partir des 16e de finale dont les affiches sont souvent trop déséquilibrées et de faible intérêt sportif.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. On passe au dossier du jour. Au Sénégal, un tribunal a condamné aujourd'hui à 2 ans de prison avec sursis le marabout Cheikh Ouna Gueye, maître d'une école coranique où des élèves étaient enchaînés. Ces 5 co-prévenus ont également été reconnus coupables et écopés de la même peine sur cette affaire semblable à plusieurs cas d'écoles coraniques révélés notamment au Nigeria. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Dakar le journaliste Alassane Samba Diop.
D'abord, il faut dire que enchaîner des talibés, c'est une longue pratique traditionnelle qui a toujours existé au Sénégal aux temps anciens, parce qu'avant, les marabouts attachaient les talibés pour les empêcher de fuir pour qu'ils puissent apprendre leur leçon. Donc, il y a certaines zones, à l'intérieur du pays, où certains marabouts pratiquent ce genre de situation sur des enfants. C'est pourquoi c'est un peu compliqué, parce que c'est une tradition qui a existé au Sénégal depuis la nuit des temps, mais le verdict qui s'est déroulé au niveau du tribunal de Louga, où le marabout Cheikh Ouna Gueye a été condamné à 2 ans avec sursis, à coup sûr, il y a une pression de la justice, on peut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle un verdict d'apaisement.
Vous invoquez la coutume, est-ce pour dire qu'il y a une emprise religieuse sur l'autorité de l'État?
Ah ben c'est clair. Ce qui se passe aujourd'hui, ça le dit clairement. C'est clair que s'il n'y avait pas cette manifestation de talibis, s'il n'y avait pas cette intervention des marabouts sur ce qui s'est passé à Louga, ce qui est clair que ça pourrait ne pas se passer comme ça s'est passé aujourd'hui.
En quelque sorte, les parents et l'État ont démissionné de leur mission.
Oui, c'est les parents. Les parents, vous ne pouvez pas avoir votre enfant. Vous dites au marabout, je vous donne mon enfant, occupez-vous de tout de lui, vous ne participez pas à son éducation, vous ne payez pas son éducation. Pourquoi l'État du Sénégal ne fait pas des écoles coraniques, la même chose qu'ils font dans les écoles françaises? Recruter des maîtres, leur payer des salaires, les mettre dans des commissions, ils apprennent la religion là-bas. Je pense que les enfants qui sont aussi dans les écoles coraniques ont les mêmes droits que les enfants qui vont dans les écoles françaises.
Le calife général des Mourides, qui a l'oreille des politiques, qu'est-ce qu'il en dit clairement?
Bon, le calife, il a dit que quand les gens se veulent lui raconter ce qui s'est passé avec cette histoire de marabout qui a été emprisonné suite à cette affaire de chienne passée au pied des enfants, le calife a demandé que les gens restent calmes, de laisser lui s'en occuper, que l'État libé mourut de se calmer par rapport à cette histoire, lui il va s'en occuper. Visiblement, il y a eu peut-être une discussion entre Khalifa et le pouvoir politique, parce que quand le président de la République Macky Sall était parti dans un village qui s'appelle Kayel, c'était la journée de l'élevage, il en a profité pour aller se rendre visite au Khalifa général de Mourid. En ce moment-là, je pense que la discussion était secrète, mais certainement cette question a être abordée entre les deux personnalités.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'interdire publiquement cette situation?
Non, c'est plus subtil que ça. Au Sénégal, le jeu entre pouvoir et pouvoir maraboutique ne se déroule pas comme ça. Il y a une sorte d'entente tacite entre les deux pouvoirs dans la gestion des questions des dites sensibles. Je pense qu'ils ne vont pas interdire nommément comme ça. Ils vont essayer quand même d'essayer de gérer une situation qui se déroule entre les deux personnalités. Le Khalifa de Mourid n'a jamais interdit publiquement ce genre de choses. Mais il y a quand même d'autres aussi marabouts, d'autres Sénégalais qui sont indignés de cette situation qui s'est déroulée avec les jeunes. Les gens demandent aujourd'hui qu'il y ait beaucoup plus de pédagogie vis-à-vis des maîtres coraniques pour qu'ils comprennent que ces pratiques surannées n'ont plus lieu d'être.
Est-ce qu'il est contre cette pratique, au moins?
Mais on n'a pas réellement, il n'y a pas réellement une position claire par rapport à ça. Je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, je n'ai pas entendu que dire que lui-même il est contre ces pratiques de façon réelle. Il n'en a pas parlé.
Alassane Samba Diop, journaliste à Dakar. Comparution ce mercredi à N'Djamena de Mahamat Nouri Bédou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, suite à une plainte pour diffamation. Le plaignant Bokit Bar Mahamat Itno reproche à M. Ibédou de l'avoir injustement accusé de torture dans la région du Wadaï. Pour une analyse, Timothée Donangma y a joint Makaila Nbella, journaliste blogueur tchadien. Il est à Paris. Donc nous en reparlerons peut-être ultérieurement, car nous avons un petit problème technique. Donc nous reviendrons sur cette question. On fait en attendant un rappel des grands titres de l'actualité, notamment, on a dit tout à l'heure que l'UMOA débloque 50 milliards de francs CFA pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays confrontés au terrorisme. Emmanuel Macron invite aussi les présidents du G5 Sahel pour qu'ils clarifient leur demande sur la présence militaire française dans la région. Au plan international, Donald Trump a annulé sa conférence de presse à l'issue du sommet du 70e anniversaire de l'OTAN près de Londres. Au niveau américain, ici aux États-Unis, le Congrès a débuté le débat juridique sur la procédure visant la mise en accusation du président Trump. Alors, pour revenir sur cette question de la force militaire antiterroriste française au Sahel, on dit que donc le président français Emmanuel Macron a invité à Pau, en France, donc le 16 décembre, les présidents des pays du G5 Sahel, et Paris veut donc qu'ils le clarifient et formalisent leur demande à l'égard de la France pour sa présence militaire antiterroriste au Sahel. Et dans le même temps, en sommet extraordinaire à Dakar, les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont décidé de décaisser 100 millions de dollars au profit des trois membres de la ligne de front du G5 Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, afin de renforcer donc cette lutte antiterroriste. Au Sénégal, un tribunal sénégalais donc a condamné à 2 ans de prison avec sursis le maître d'une école coranique où les élèves fugueurs étaient enchaînés. Le procureur avait requis 2 ans de prison, dont 2 mois ferme. La police avait bloqué les accès au tribunal de Louga et récemment, les sympathisants de Cheikh Ounagay avaient saccagé le tribunal pour qu'il soit relâché avec ses co-prévenus, à savoir 4 parents et le forgeron qui a fabriqué les chaînes. Nous venons tout juste d'en parler, notamment avec une interview de Alassane Samba Diop, qui est journaliste à Dakar. Et la police togolaise a arrêté 18 personnes soupçonnées d'avoir participé le 23 novembre à des agressions contre des gendarmes à Lomé et à Sokodé, blessant 5 d'entre eux, dont un qui a depuis succombé à ses blessures. Elles appartiennent à un mouvement dénommé Tigre Révolution, créé il y a environ 1 an par un Togolais résident en Belgique, a déclaré le directeur de la police, le lieutenant-colonel Yaovi Okpaoul. Des militants des droits de l'homme ont dénoncé la décision de la Tanzanie d'empêcher les particuliers et les ONG de porter directement plainte contre le gouvernement devant la Cour africaine des droits de l'homme. Récemment, le gouvernement s'est retiré d'un protocole autorisant ces plaintes, soulignant qu'il avait été mis en œuvre contrairement aux réserves émises par la Tanzanie. Le président ougandais Yoweri Museveni a mené ce mercredi à Kampala une marche rassemblant des milliers de fonctionnaires, policiers et partisans du pouvoir pour dénoncer la corruption. La capitale ougandaise a été placée sous haute surveillance des soldats encadrant de près les dignitaires qui défilaient, dont les présidents du Parlement et de la Cour suprême. Cette marche a suscité de nombreuses moqueries et critiques, rappelant que plusieurs scandales de corruption ont marqué la présidence Museveni. Alors nous avons dans le studio Idriss Fall pour revenir sur cette affaire sénégalaise, un tribunal qui a condamné aujourd'hui à 2 ans de prison avec sursis le marabout Cheikh Ounagay, maître d'une école coranique où des élèves étaient enchaînés. Alors Idriss Fall, qu'est-ce que vous constatez sur cette situation aujourd'hui?
En fait, je pense que un de vos interlocuteurs tout à l'heure l'a dit, il y a une tradition dans les écoles coraniques en fait, que, et dans les écoles coraniques au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire et même jusqu'au Nigeria, où les enfants subissent une certaine maltraitance. Maintenant, on les enchaîne, on les tape. Et tout le monde savait au Sénégal, en dehors de ceux qui, les associations de défense des droits de l'homme, qui étaient scandalisés, que ce barabou-là n'allait pas être condamné à des peines de prison.
Alors, on a d'autres cas, notamment au Nigeria, on en a beaucoup parlé, ça fait scandale aussi, la presse en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a eu des jugements dans ce pays également,
jamais,
au Nigeria?
Jamais. Jamais. Parce que, en fait, l'enseignement coranique dans toute l'Afrique de l'Ouest, en fait, ça va avec. C'est le même problème qui fait que les enfants, vous, talibis dont vous entendez parler, que les marabouts les envoient dans les rues comme avec de l'argent. Les enfants qu'on a découverts au Nigeria, à ma connaissance, il n'y a pas une seule personne qui a été arrêtée. Ni les enseignants, ni ceux qui ont enseigné les enfants. Jamais.
Est-ce que ce type de problème au Sénégal a été abordé de manière tout à fait concrète? Par exemple, est-ce que le gouvernement a notamment convié des imams marabouts et autres à des discussions pour aborder
ça? Non, parce que les États africains, l'islam, c'est presque une religion parallèle. Elle est dominante et que le traitement, ce n'est pas par l'intermédiaire de l'État, l'enseignement coranique, c'est fait en parallèle, c'est-à-dire c'est des gens qui reçoivent leur salaire avec les enfants. C'est une sorte d'enseignement privé parallèle. Et l'État n'a aucun pouvoir sur ces gens-là. Et ils sont très, très, très puissants. Pour le cas du Sénégal, je pense que quand cette personne a été interpellée, et sa première comparution, je pense que ses partisans ont saccagé le tribunal. Et on n'a jamais entendu.
Et c'est à partir de là qu'on l'a relâché d'ailleurs avec ses cours.
Imagine-toi, des gens viennent attaquer un tribunal et depuis, il n'y a même pas eu une seule arrestation de ceux qui ont saccagé le tribunal. Aujourd'hui, l'État a pris les devants, a barré les accès aux tribunaux. Donc imaginez-vous si cette personne était même condamnée à un jour de prison, ce qui serait fait. Donc ils sont très très puissants et que même apparemment le président lui-même a dû aller prendre conseil auprès d'un guide religieux là-bas, parce qu'ils sont très très puissants, ces confréries, pour que ce monsieur, bon, on le condamne avec sursis, mais il ne va pas en prison.
Est-ce qu'il faut s'attendre dans les jours à venir à ce qu'il y ait peut-être, peut-on espérer, des réactions de certains imams qui condamnent ces pratiques?
Non, ça, je suis vraiment catégorique avec ça. Ça n'arrivera pas. Ça m'étonnerait. Alors, là, pour le moment, par exemple, on entend des associations comme Amnesty International, bon, peut-être certains militants des droits de l'homme, certains intellectuels, mais les imams eux-mêmes, tous ceux qui connaissent la pratique de l'islam et de l'enseignement coranique savent qu'on tape sur les enfants.
Alors, on a encore parlé tout à l'heure avec donc le journaliste à Dakar, Alassane Samba Diop. Il a évoqué notamment le problème du financement des écoles coraniques. Est-ce qu'il faut pour autant le lier à ce problème d'enfants enchaînés?
Les États ne peuvent pas. Imaginez-vous, je ne sais plus, il y a des milliers d'écoles coraniques. Et si l'État devait prendre en charge les enseignants, ceux qui enseignent le Coran, donc ça signifie que les enfants ne seront plus dans les rues. Et que donc ça signifie qu'il faut augmenter le nombre de fonctionnaires. Il faut leur donner les mêmes avantages que les qui enseignent le français, l'italien ou les sciences physiques. Les gouvernements ne peuvent pas faire ça. Donc voilà, c'est un enseignement différent. Les gens apprennent l'arabe parce qu'il y a des professeurs d'arabe dans les lycées, dans les écoles laïques. Mais pour faire de l'enseignement coranique une structure officialisée, je pense que les États ne peuvent pas se payer ce luxe.
Pour terminer très rapidement, Idriss, la question des talibés, ces enfants qui font la manche dans la rue, elle a été réglée ou pas?
Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une bonne volonté politique qui dit qu'on va interdire, on va interdire. Si vous allez à Dakar aujourd'hui, au moment où je parle, les enfants sont encore dans la rue. Parce que c'est le même problème. Ce sont les enseignants qui les envoient là-bas.
Ce sont les mêmes?
Oui, c'est les mêmes.
Merci beaucoup Idrissa, un grand merci à vous toutes et à vous tous pour avoir suivi cette édition. Pardon, excusez-nous pour ce petit problème technique. Un grand merci donc à la production, à Georges Léonard Sagnou, et à très bientôt. Au revoir, restez avec nous pour la suite de nos programmes. À présent, l'actualité avec Henri Francisque, un rappel des grands titres. Très bonne soirée à vous.